Suite au décès de la mère de Gilles Duceppe, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Demain sera malheureusement un bien triste anniversaire, l'une des pires tragédies au Québec. Mm-hmm. 32 morts, la résidence du Havre à l'Île Verte, ouais. Entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Et encore du travail à faire, Marie-France, parce que Jean Melançon, le coprésident de l'Association des chefs en sécurité d'incendie du Québec, nous a dit que c'est pas encore toutes les résidences qui disposent de gicleurs automatiques.
Oui, elles ont jusqu'à 2020 oui. pour installer oui. les gicleurs. Tout d'abord, Paul, toutes mes condoléances à la grande famille du CEP, que ce soit des gens connus et aimés ou une inconnue. Perdre sa mère de cette manière-là, c'est extrêmement douloureux. Donc, vraiment, toutes nos pensées vont vers eux. Il faut dire qu'on ne sait pas tout. Le coroner va enquêter et faire ses recommandations. Les organismes de défense des aînés ont demandé que des mesures soient prises pour s'assurer que le drame de dimanche ne se reproduise pas. Et puis, on a une ministre très proactive qui ne laissera pas les recommandations en plan, on peut bien s'en douter. Cela dit, il va vraiment falloir se pencher sur la question de la qualité des soins des aînés et sur la question de la sécurité dans les résidences privées, parce qu'il y a toute une génération qui vieillit et qui va vieillir longtemps, et que les résidences sont vraiment une alternative à la maison, au CHSLD. C'est un milieu de vie d'une grande partie de nos aînés, qu'ils aient 65 ou 95 ans. On voit que le spectre des générations est immense. Il y a vraiment un monde entre ces deux âges-là. Combien sont-ils? Quelle proportion sont en résidence privée? Est-ce qu'on le sait exactement? Je ne sais pas. Et ça, c'est toute la question, tout le problème des résidences privées, c'est qu'elles sont privées. Alors, on ignore beaucoup sur cet univers-là et on ne veut pas trop savoir, tant qu'on n'est pas dans le grand âge, on ne veut pas savoir exactement ce qui s'en vient, ce que c'est. Sauf que quand on a à regarder pour une résidence, pour un parent âgé, ça a été mon cas il y a quelques temps, on se rend compte que c'est vraiment un univers. D'abord, on les croit toutes semblables, ces résidences. On croit que c'est un mal nécessaire. Et il y a vraiment de tout. Il y a du pire au meilleur. Et Mme Duceppe était certainement dans une des très bonnes résidences à Montréal. On se rend compte, Paul, qu'il y a des classes sociales, que toutes les résidences ne s'adresse pas aux mêmes groupes socio-économiques. Il y a du grand luxe, il y a de l'ordinaire, il y a du cheap dans les grandes villes. En région, tout le monde peut se retrouver dans la même résidence, celle du coin, c'est donc un microcosme. Il y a des petits joueurs indépendants, il y a des résidences familiales et il y a aussi des chaînes, des gros groupes de résidences. Donc, les moyens sont très différents. Les philosophies peuvent être très différentes dans les résidences. Et dans les résidences elles-mêmes, il y a des résidents qui sont en condo, il y en a qui sont dans des appartements pour personnes autonomes. Il y a des chambres avec soins médicaux, avec services. Il y a des services, par exemple, le ménage, qui sont offerts par le privé, par le CLSC, et d'autres qui sont offerts, il faut payer évidemment, par les résidences. Alors, comment homogénéiser? Comment savoir quoi offrir en matière de protection, de sécurité, de monitorage? Comment offrir, établir des normes minimales? Il va pourtant falloir fouiller ça, mais je te dis, c'est un monde, c'est un univers, les résidences.
Ouais.
On peut pas dire qu'elles sont toutes pareilles et faire des espèces de généralités, c'est impossible.
Et tu l'as dit, avec des variations de qualité.
Absolument.
Incroyables.
Ah oui, oui, faut vraiment magasiner sa résidence. C'est vraiment quelque chose. Et aussi, Paul, il faut ajouter, tu parlais du drame survenu en 2016 à la résidence du Havre à l'Île Verte par cause de manque de... Enfin, le nombre de morts est dû au manque de gicleurs. C'est pas normal que ça prenne des drames, comme dans le cas de l'hypothermie au luxe en fin de semaine. C'est pas normal que ça prenne des drames pour procéder à des ajustements. Et les résidences sont laissées à elles-mêmes, elles bricolent, elles s'ajustent à des grands chambardements comme celui de l'Île Verte, mais j'imagine qu'il y a plein de mini-drames qui se jouent de manière hebdomadaire dans les résidences et qu'on prend des mesures pour que ces histoires-là ne se reproduisent plus. Il va vraiment falloir s'attaquer à un vrai chantier proactif, celui de la sécurité des aînés, et ça va passer par quelles mesures, par quel acte et quels moyens veut-on consacrer au vieillissement de la population? Ça, c'est l'autre question. On en a parlé plus tôt cette semaine. C'est vraiment le test du réel. Ça prend de l'argent, bien sûr. Ce sont des services et des ajustements qui coûtent cher, mais les risques coûtent encore plus cher, bien sûr. Et ça prend du monde. On le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre et ce sont des professions, celles des soins aux personnes âgées, qui sont pas très valorisés, pour ne pas dire dévalorisés. Alors, énorme chantier. Évidemment, ça va tomber dans la cour de Marguerite Blais. Très hâte de voir ce qu'elle va faire, mais c'est de penser globalement la question des résidences privées. C'est extrêmement difficile, mais il va vraiment falloir s'y attaquer.
Autre sujet, et ça m'a frappé lorsque j'ai vu le titre, quand on regroupe les fortunes des 26 milliardaires les plus riches de la planète, eh bien, ces 26 personnes détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité.
Écoute, moi, ça m'a fait tomber de ma chaise, moi aussi. Mais pour continuer dans les chiffres qui fessent, la moitié de l'humanité la plus pauvre, c'est 3,8 milliards d'individus. Et les 26 milliardaires dont tu viens de parler, l'an dernier, ils étaient 43 à se partager, donc la moitié de la richesse de l'humanité. Ils sont tombés à 26, c'est-à-dire leur richesse. Et on a en ce moment le double de milliardaires qu'avant la crise de 2008, une crise évidemment qui avait jeté à la rue des milliers de personnes, qui avait détruit des centaines, des milliers de bons emplois aux États-Unis et on s'était dit plus jamais, ben c'est reparti de plus belle. Alors, Oxfam publie chaque année comme ça au moment du sommet de Davos, qui est vraiment cette grande célébration des néolibéraux de la planète. Donc, une publication annuelle qui est une forme de dénonciation raisonnée, ça nous montre l'envers de la croissance, ça nous montre également, ça chiffre la vitesse à laquelle croissent les inégalités. Paul, si je te demande, qui est l'homme le plus riche du monde?
Ah, je sais qui tout de suite, je vais te répondre tout de suite. Le grand patron et fondateur d'Amazon,
exact.
Jeff Bezos.
Exactement.
Et qui est au cœur d'un divorce en ce moment, le pauvre homme.
Ah ben oui,
homme.
C'est vrai, ça va lui
Comment
coûter très cher.
Comment va-t-il faire
mais
pour
non,
passer
mais
à travers ça?
Je m'en fais pas trop pour lui. Sa richesse en 2018 était estimée à 112 milliards de dollars. Tu sais que 1% de sa fortune, c'est le budget de l'Éthiopie, qui est un pays de 108 millions d'habitants. Bon, je dis ça de même. Et le rapport souligne, malgré tout, que notre époque n'est pas si pire. Quand on regarde l'histoire, et ça c'est intéressant, sur une période vraiment très longue, depuis des dizaines, des centaines d'années, il y a moins d'extrême pauvreté au cours de ces dernières décennies. Il y a plus d'égalité pour les femmes, les petites qui vont à l'école dans différents pays, même très brièvement, même à peine quelques années, vont être moins pauvres par la suite. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile avant 5 ans dans le monde, beaucoup plus d'accès à l'eau potable, mais la pauvreté extrême a repris depuis 2013. Ça, c'est ce que Oxfam dit. Et les inégalités, évidemment, elles tombent pas du ciel. C'est vraiment souvent le résultat de choix politiques, de fiscalité injuste, incluant évidemment les paradis fiscaux, la sous-taxation des plus fortunés du monde, la mauvaise redistribution des richesses qui entraîne des services publics déficients ou qui s'effondrent. Et dans beaucoup de pays, on peut penser à des pays africains, on peut penser à des pays asiatiques, mais on peut penser aux États-Unis, on peut penser à des sénateurs, des politiques qui sont achetés par des lobbies littéralement, qui jouent dans l'équipe des grandes fortunes et qui font que les politiques passent des lois très profitables qui ne taxent pas les plus riches des grandes fortunes. Et la fameuse théorie néolibérale et libertarienne du ruissellement de la richesse, tu sais, la richesse ruisselle des plus riches vers les plus pauvres, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est totalement fausse. Et il y a cet indice des inégalités très probant que tu connais certainement, qui est l'écart des salaires entre, mettons, le chef de l'entreprise et son salarié moyen. Henry Ford, qui était quand même un grand capitaliste du début du 20e siècle, l'inventeur de la fameuse voiture Ford, avait dit que l'échelle salariale ne devait pas excéder 1 pour 40.
Ah oui.
Le chef de l'entreprise ne devait pas faire plus que 40 fois
non seulement
celui
ça,
de l'employé.
Il disait, mes employés doivent faire assez d'argent pour acheter mes produits, enfin,
mais tout,
nos
il y avait,
produits.
Tout à fait. Tout
oui,
à
il
fait,
avait
il
raison.
Avait raison.
C'est lui qui a inventé la
nourrissait.
La ligne de montage.
Exactement. Aux États-Unis, en ce moment, tu sais de combien est l'écart? 265 pour un. Si tu fais 50 000 $ comme salaire moyen, ton président d'entreprise va faire 1,325 millions de dollars. C'est complètement fou. Et en Norvège, c'est 20 fois seulement parce que justement, les politiques fiscales sont totalement transparentes. Tu peux aller vérifier combien fait tel dirigeant d'entreprise. Tout le monde peut aller vérifier nos salaires. Donc, ça, les gens se gardent une petite gêne. Et que produit l'explosion des inégalités? On le voit en ce moment dans le monde, un monde de plus en plus instable, terreau d'encore plus d'inégalités, moteur, puissant moteur de rébellion sociale et politique, populisme. On le voit avec les Gilets jaunes en France, on le voit avec le Brexit en Grande-Bretagne, le mouvement 5 étoiles en Italie. Un sentiment de colère et de frustration des populations et tout ça... globalement, on est dans un système capitaliste, tout ça est très, très, très mauvais pour le capitalisme. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. En créant en augmentant ces inégalités-là, le système capitaliste se tire littéralement dans le pied. Il y a moyen à la Ford d'être un peu plus égalitaire ou à la norvégienne, qui n'est quand même pas un régime socialiste, quoi qu'en disent certains libertariens. Il y a quand même moyen de faire un capitalisme à visage souriant, comment dire.
Merci Marie-France.
À demain, Paul.